Quelle est l'intention de Dieu pour moi, pour toi, quand il m'a créé? Voilà. Donc j'avais envie de parler de ça, hein, ce matin. Quelle était la pensée de Dieu sur ma vie, etc., etc. Quelle est l'intention de Dieu sur nos vies? Ok. Hein. Et j'ai cherché ce que c'était que, quelque part, dans le Larousse, en fait, Larousse, oui, c'est ça, ce que veut dire ce mot, l'intention. Dieu est un Dieu qui est intentionnel. Il ne fait pas les choses n'importe comment, il a une intention, ça c'est important. Et donc il donne comme définition, être intentionnel, c'est être déterminé à faire quelque chose ou à accomplir quelque chose. Et Dieu est intentionnel. Dieu, il ne se balade pas comme ça, vous savez, comme les anges. Enfin, je ne veux pas dire que les anges se baladent, mais en fait, il ne change pas d'avis toutes les 5 minutes. Dieu est un Dieu intentionnel. Et il y a des synonymes pour ce mot. Ça veut dire qu'il y a une notion de but, de dessein, d'objectif, de projet, de résolution, de volonté. Voilà. Ça, c'est notre Dieu. Il est intentionnel. Il ne change pas de direction. Il sait où il va. Et quand on est né, hein, eh bien, Dieu avait déjà des intentions pour nous. Et on va voir des versets. D'accord? Alors, c'est très drôle parce que Madalena, elle a cité le verset que Dieu t'avait donné hein, dans la semaine ou quelques jours avant, en fait. Et j'ai cité Proverbe 16, 4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Voilà. Donc je me dis, ce n'est pas un hasard si c'est... Dieu est intentionnel, il sait les choses. Hein. Dieu a des intentions, Dieu a des projets. Et vous savez que quand il nous a créés, hein, chacun, en fait, il le dit lui-même, hein, c'est dit que Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient son image. Donc on a été créés chacun avec une intention. C'est très clair qu'on soit l'image de Dieu. Pas complètement. Hein? Bon, Dieu, c'est un être spirituel. Nous, on est des êtres humains. Mais c'est clair qu'on est créé à sa ressemblance. Et ça, vous trouvez ça dans Genèse 1, 26, hein, et puis dans Genèse aussi 1, 31, d'accord? Et en fait, on retrouve aussi dans le psaume 19, au verset 1, en fait, « Sa création raconte sa gloire ». Donc, « Tu racontes la gloire de Dieu ». Sa création, souvent quand on entend parler, quand on dit « la création », raconte la gloire de Dieu. Quand vous voyez la création, en fait, ben, on pense à la mer, aux montagnes, à la campagne, enfin, à tout ce que... Mais en fait, la création la plus importante pour Dieu, c'est nous. Il a dit que tout ce qu'il avait fait, il s'est félicité. Moi, j'aime bien. Il s'encourage tout seul. Il s'est félicité à chaque jour. Hein, je ne sais pas... Enfin, Dieu ne sommeille pas, ni ne dort pas. Hein. Mais en fait, à chaque jour, quelque part, il devait... Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui. C'est bon ce que j'ai fait. Dieu est intentionnel. Il n'est pas le Dieu qui... Voilà, il a des projets, c'est clair, il a un but. Et vous savez, Dieu, il sait où il va. Ce n'est pas forcément notre cas toujours. Hein. Non. Mais lui, en fait, la bonne nouvelle... c'est qu'il sait où on devrait aller et où on ne va pas forcément. Hein, parce que des fois, nous, on aime bien faire des crochets où on pense qu'il y a des choses qui vont nous permettre d'aller plus vite. Hein. Ou alors, des fois, on fait tellement de détours qu'on ne sait même plus où on est et on ne sait plus du tout où on doit aller. Mais lui, il sait où il doit aller. Et quelque part, le projet qu'il a fixé sur nos vies, il ne va pas changer, en fait. Il ne va pas le changer. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que nous, on est cette création qui racontons sa gloire et on fait partie de cette création. Et quand il nous a fait, il a dit que c'était très bon. Très bon. Là, il a, je dirais qu'avant, il s'est exercé. Et puis là, le sixième jour, là, il s'est lancé. Il a créé l'homme. Et il a dit, waouh, ce que je fais, c'est une créature à ma ressemblance, quoi. Voilà. Donc, Dieu, ce qu'il faut voir, c'est que quand il s'est félicité lui-même, quoi. Il a dit, c'était trop super. J'ai créé un semblable. On n'est pas Dieu, hein, mais on est à sa ressemblance, créé à sa ressemblance. Et dans le psaume 139, il est dit quelque chose. C'est marqué, je n'étais même pas encore sur la terre, que dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun n'existait encore. Psaume 139, verset 16. Donc, les intentions de Dieu sont des bonnes intentions. Il est un Dieu bienveillant. Ok ? Donc, on est créé pour un but, on est créé d'une manière intentionnelle, quoi. C'est pas, il s'ennuyait, allez, hop, oh, je savais pas quoi faire, tiens. Non, 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 et sur chaque personne, il sait pourquoi il l'a créé. Et en fait, vous savez pourquoi on est créé ? On est créé pour raconter la gloire de Dieu. Alors ça, c'est la meilleure, hein. Quand on va vous demander pourquoi tu es sur la terre, vous allez dire, moi, je suis là pour raconter la gloire de Dieu. Et en plus, je ris, mais c'est parfaitement vrai. On est missionné pour raconter sa gloire. On a été créé à son image. Quand on voit comment Dieu a créé les fleurs, attendez, il ne fait pas une fleur pareille, quoi. Il ne fait pas un flocon de neige. Chez les scientifiques ont réalisé que chaque flocon de neige a une identité particulière. Donc, à combien plus forte raison ? Nous, on est là pour raconter sa gloire. Ça vous va ? Alors, lundi matin, tu te lèves et tu dis, Seigneur, oh, je vais raconter ta gloire parce que je suis fait à ton image. C'est merveilleux. Non, ça ne vous fait pas du bien ? Hein ? Moi, je suis là pour vous faire du bien. Hein ? Combien Dieu ? Dieu veut davantage, quoi. Dieu veut davantage. D'accord ? Donc, notez bien le psaume 139. Je vous ai donné le verset 16. Hein ? Et puis, ben, il est dit de nous, dans le psaume 8, verset 6, tu es là sur cette terre pour raconter sa gloire, et sa gloire, c'est manifester sa présence. Hein ? Et il est marqué au sujet de l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur ta création. Parce que quelque part, on est fait là, on est aussi fait sur la Genèse, c'est marqué dans la Genèse, que Dieu nous a dit, ben voilà, de dominer la création, quoi, de la gérer, de s'en occuper, de lui faire du bien. Hein. Donc, tu lui donnes de régner sur ta création, sur les œuvres que tu as créées. C'est pour ça que dans le Notre Père, il est dit, Notre Père, que ton règne vienne sur cette terre comme il est fait dans les cieux. Dieu veut régner sur la terre. On sait que l'ennemi a fait un rapt, mais nous, on est là pour raconter la gloire de Dieu. Amen. Hein? Dis à ton voisin que peut-être il ne savait pas, mais aujourd'hui la bonne nouvelle, c'est qu'il est fait pour raconter la gloire de Dieu. Vous imaginez ? Hein? Alors tous les matins, vous pouvez dire, oh Seigneur, comment je vais raconter ta gloire aujourd'hui ? Comme tu veux, Seigneur. Manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous pensez que ses intentions, quand il nous a créés, est-ce que vous pensez que ça a changé ? Bon, il y a beaucoup de bazar sur la terre, hein, c'est vrai, en ce moment particulièrement. Son intention n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé ? Parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Donc, quand Dieu a mis des choses en nous, il ne va pas les changer. Enfin, quand je veux parler de l'appel, et quand, de la destinée, et quand je veux parler des dons, il y a des choses qu'il aimerait changer. Il nous met... Quand le vase a un peu été déformé, vous savez, qu'il ne ressemble plus à grand-chose, et hop, il nous met sur le tour du potier. Hein. C'est une image, le tour du potier. Hein. Parce que avec quoi on fait le... C'est avec de l'argile. Et comment Dieu nous a créés au départ? Ben, il a créé l'homme, c'est le terreux. Hein. Adam et Ève, il vient de la terre. Il s'appelle Adam le glébeux. Hein. Le glèbe, la terre. Et on fait des poteries avec de, ben de l'argile, en fait, avec de la terre, quoi. Et c'est pour ça qu'il nous remet sur le tour du potier. Donc, on est, quand il nous remet sur le tour du potier, c'est qu'il nous remet entre ses mains, parce qu'il voit que ça a déraillé, quoi. Que le vase, il a pris une forme très bizarre, auquel Dieu n'avait certainement pas pensé. Vous savez, des fois, nous, on a des idées bizarres, hein. Et on fait des choses bizarres. Et donc, il nous remet sur le, potier, sur le, ben, le tour du potier. Et vous savez, ce qui est bien, c'est qu'il met de l'eau. Vous savez, le potier, pour, il met de l'eau. Enfin, bref. Hein. Donc, c'est Françoise qui sait très bien comment on fait des poteries. Vous irez lui demander. Alors, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. C'est dans Romains 11, 29. Et Jacques 1,17 nous dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce n'est pas une girouette. Même si on a mis sur le clocher de nos églises un coq qui tourne. Mais Dieu n'est pas une girouette. Dans ce qu'il fait, il est quelqu'un de posé. Il ne change pas, il n'y a ni ombre dans qui il est. Et Jérémie 29, 11, nous dit quelque chose. Car, et c'est Dieu qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de vous assurer un avenir plein d'espérance. Les projets de Dieu sont des projets de paix. Et c'est, il y a même une version qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, conçus en ta faveur. » Conçus en ta faveur. Nous, quand on est la maman ou le papa, quand on attend notre bébé, est-ce qu'on a... Quels sont... On a des projets, mais c'est des projets de bonheur. Ben oui, c'est des projets de bonheur. On a envie d'enfanter la vie, quoi. On a vraiment envie de... Eh ben voilà, que l'être qu'on porte, eh bien, il puisse vraiment recevoir et être avec une vie pleine d'espérance et de vie. Donc, Jérémie 29, 11. OK ? Ça va, je vous donne plusieurs versets. Il y en aura moins après, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en fait, se projette en nous pour établir son règne sur la terre. Alors des fois, on dit, mais Seigneur, je suis rien. Mais je me dis, mais quand on dit ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Il a pris du temps. Bon, alors le temps pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Hein. Il a des problèmes avec le temps. Hein. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Mais il a pris le temps. Il a pris du temps pour nous. Il s'est projeté quelque part. Et les parents, souvent, quand on est parent, c'est ce qu'on fait aussi. Alors des fois, il faut faire attention, parce que l'enfant demeure une personne à part entière. Hein. Et il est unique. Et nous sommes... Attendez. Chacun, nous sommes uniques. Chacun, nous sommes uniques. Mais ben c'est vrai qu'on fait on a des projets. Il se projette, ça veut dire qu'il a des projets pour chacun d'entre nous. Et son projet, c'est qu'on l'aide à établir son règne. Ça vous va? Eh, on est des fils de roi ou pas? Et des filles? Donc on est appelés à régner avec lui. Donc c'est pas mal, hein? tout ce que je vous dis là. On est appelé à ce... Et Dieu s'est projeté en toi pour accomplir son règne sur la terre. Donc, à chacun de nous, il a donné une façon de vivre, une façon de manifester son royaume, son règne et qui il est. Surtout, ne copie pas ton voisin. Tu es unique. Si tu veux être comme ton voisin, tu as tout faux. Parce que tu ferais mieux d'aller consulter Dieu. Parce que lui, vous savez, quand on a un problème avec une machine, qu'est-ce qu'on va voir ? Si tu as un problème avec ton téléviseur, tu ne vas pas aller voir le gars qui a fabriqué une machine à laver. Hein ? Ben non, ça ne va pas. Hein ? Ça ne va pas. Donc, quand vous avez des soucis d'orientation, allez vers celui qui vous a créé. OK ? C'est mieux parce que... Et puis vous lui dites, « Eh oh ! Tu as dit des choses sur ma vie. Tu t'es projeté sur moi. Et je veux te servir. » Tu m'as fait unique, alors je ne peux même pas copier celui qui est à côté de moi. Et lui, on est fait pour travailler ensemble. Mais on est fait, chacun, on est une diversité de la grâce et de l'amour de Dieu, quoi, en fait. Mais rappelez-vous de ça, il s'est projeté en toi pour accomplir ce règne sur la terre. Ah, ça va mieux, hein ? Quand même, hein, on n'est pas dans un tunnel, on n'est pas dans une grotte. Mais vraiment, mais ça, des fois, on oublie tout ça. Alors que c'est vrai. Hein. Et puis, regardez, même quand nos enfants font des bêtises, est-ce qu'on dit, allez, on peut les punir, hein, ça fait du bien. Parce qu'il faut arrêter leurs bêtises aussi. Il faut leur apprendre ce que c'est qu'une bêtise. Mais on ne se détourne pas d'eux. Notre amour, il est inconditionnel. C'est mon enfant, alors je l'aime. Mais je vais le corriger aussi, on verra ça un peu plus tard. Donc, Dieu t'a créé, il a conçu un projet pour ta vie. Il t'a créé avec une destinée qui va raconter, manifester sa gloire. Alléluia! Ça, c'est super, hein? Mais ce n'est pas un cadeau vide, c'est plein de bonnes choses, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience. Il se projette en toi. Tu n'es pas rien, tu es créé à l'image de Dieu. Celui qui nous envoie ses messages, quand tu dis « c'est nul », tu offenses ton Créateur. Quand tu dis « je suis nul », quand tu dis « je ne vaux rien », tu offenses ton Père Céleste. Tu l'offenses parce qu'il t'a créé à son image. Alors, ça veut dire que quelque part, celui qui nous a créé à son image, on pense aussi qu'il est un peu nul, quoi. Ça, c'est des pensées de l'ennemi. On est imparfait, ça, c'est très bien. Heureusement, l'autre qui est à côté de moi, il va me compléter. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis Dieu n'a pas enfanté, n'a pas créé qu'un seul homme. Il en a fait... Il sait très bien comment on est, qu'on a besoin de l'autre et qu'on ne peut pas faire tout seul, quoi. Mais faites attention, hein. Il se projette en toi. Tu n'es pas rien. Tu as de la valeur et tu as sa valeur. Et la valeur qu'il a offert à toi, c'est son propre fils. Donc c'est une offense qu'on fait à Dieu quand on dit « Je ne vaux rien, tiens, laisse tomber, voilà. Oh, je démissionne. » Mais non, ce n'est pas juste. Mais c'est des pensées de l'ennemi qu'on traduit finalement. Si la prochaine fois, tu as envie de dire « Je ne vaux rien, j'en ai marre, je suis nul. » Tu peux le penser, mais ne le dis pas. Déjà, commence par ça, puis après tu arrêteras de le penser. D'accord ? Celui, c'est des flèches. Ça, c'est des flèches que l'ennemi nous envoie. C'est pas autre chose. Hein ? Pour te Puis alors là, on va te dire, tu penses que tu es humble. Tu es en train d'humilier ton Dieu, ton Père, celui qui t'a sauvé. Quand tu racontes des choses comme ça, alors ça vient d'où ces pensées ? Moi, je vais vous le dire, de l'enfer. Il faut dire, je refuse ces pensées. J'ai une valeur, j'ai été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Des fois, je fais des bêtises, c'est sûr. Je quitte les rails, c'est sûr. Mais je sais que mon Père Céleste, il va me remettre sur les rails. Cette fois, le juste y tombe, cette fois, Dieu le relève. Alors, lui, il va nous relever. OK ? Donc, il compte sur toi. Ouhou. Il a investi en toi, donc il faut que ça soit rentable. Ben, quelque part, il faut que tu sois rentable, mais rentable, pas dans le sens, voilà, mais rentable, ben, que tu racontes sa gloire, c'est ça ce qui le glorifie, que tu racontes sa gloire, que tu dis, ben non, je ne vaux pas rien, je suis la fille de mon Père Céleste, je suis le fils de mon Père Céleste, j'ai beaucoup de valeur. Dites ça à quelqu'un, vous allez voir sa tête. Essayez. J'ai beaucoup de valeur. Ah bon ? Oh, ben je suis content de t'avoir. Je suis content de t'avoir comme ami. Oh, c'est bien. Oui, mais mon ami, il est spécial. Je vais te le présenter bientôt, très bientôt. Ben oui, c'est une façon d'évangéliser, ça. Ben oui, et c'est pas de l'orgueil démesuré. C'est une réalité. Vous savez, on vit dans un monde qui est autre que le monde céleste. Donc, il faut rappeler les vrais. Je suis la fille de mon Père. Ah bon ? Tu viens de le réaliser. Eh bien oui, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Ok ? Alors, il a investi en toi. Il te rend participant et il t'a mandaté pour construire sa maison, son royaume sur cette terre. Une partie ! Mais ne la néglige pas, parce que c'est ce qui t'a donné de faire. Ne pas négliger ce que Dieu t'a donné de faire. T'as tel don, mais utilise-les jusqu'à temps qu'il soit, qu'il brille encore davantage. Voilà. Utilise ce que Dieu t'a donné. Et ne, il est dit, faut pas convoiter ce que l'autre il a. Ben oui, faut faire son deuil que t'as pas le don de l'autre. Et puis, quand tu as réalisé ça, tu vas chercher le don que tu as ou les dons que tu as. Et Dieu est glorifié quand tu les mets en valeur. Ne convoite pas le don de l'autre. Mais raconte-lui, lui dire, mais c'est vraiment, je suis trop contente que tu aies ce don-là, quoi, parce que moi, j'en serais incapable. Mais Dieu a pourvu, alors ça me rassure. Tiens, la prochaine fois que j'aurai besoin et que je ne peux pas pourvoir, je veux t'appeler au téléphone. Tiens, je pense que là, etc., etc. Voilà. Et quelque part, on honore la personne. Et quelque part, on lui fait du bien aussi parce qu'on reconnaît le don qu'elle a en plus. Donc, il ne faut pas être jaloux. Vous vous êtes pas jaloux. Bon, des fois, un petit peu. Jamais. Bon. C'est un chapeau. T'es contente, t'as raison. Non, mais... Ok, non, mais je fais ça sous forme d'humour. Mais c'est vrai que c'est important. Bon, il croit en toi puisqu'il a déposé en toi un projet qui va contribuer à construire son royaume sur la terre. Donc, en fait, on investit, en général, dans des choses qui sont quelque part, qui vont porter du fruit. Bon, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il investit en toi. S'il t'a donné des dons, des talents, et un caractère et une façon d'être, mais parce qu'il a investi de cette manière en toi. Ok. Et ne cherche pas à investir les choses comme l'autre. Tu ne vas pas y arriver. Mais brille avec la lumière de Dieu, brille avec ce qu'il t'a donné. C'est ça ce qui va briller. C'est pas autre... Et puis là, comme ça, ça te rend humble parce que tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a donné ça. Et tu le glorifies et tu bâtis sa maison. Tu honores Dieu. Tu honores Dieu. D'accord ? Alors, juste, c'est des choses que vous savez, mais en fait, on est fait pour être aimé. Dieu nous a créés pour être aimé. Et aimé. Les deux choses. Il nous a créés pour être aimés et il nous a créés... D'ailleurs, lui, il nous aime. Il nous aime... Quand il nous a créés, ça voulait dire qu'il nous a créés par amour. Il nous aime. On est fait aussi pour vivre dans sa lumière. On est fait pour vivre dans sa présence. Apparemment, Adam et Ève, ils ont choisi autre chose. Bref. Mais... on est fait pour vivre dans sa présence. C'est pour ça qu'on dit, passons du temps dans la présence de Dieu. C'est pas parce que c'est obligatoire, c'est parce que c'est la meilleure des positions. C'est la meilleure. Où est-ce qu'un enfant va se réfugier? Dans les bras de ses parents. C'est pas bien compliqué, hein? Et Dieu, il a toujours une oreille pour nous, quoi. Donc, on est aimé, et vivre dans sa présence, eh bien, c'est et vivre pour, dans sa présence, c'est quelque chose qui est bon. Et alors, vous savez, Dieu ne cessera jamais de nous aimer. Même le pire des pires de criminels. C'est impressionnant, ça. Dieu ne cessera jamais de nous aimer, même le pire. Tu ne peux pas l'empêcher de t'aimer. Ah ! On ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer. Qu'on sente ou qu'on ne sente pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Dieu, mais on le dit tout le temps, Dieu est amour. C'est impossible. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Mais par contre, quelque part, tu vas le recevoir, l'amour, ou pas le recevoir. Tu peux te priver de son amour. C'est ta liberté. C'est ta liberté, ça. Parce que Dieu nous a créés libres. Donc, on ne peut pas l'empêcher. C'est ça ce qui est bien. C'est qu'on ne peut pas l'empêcher de nous aimer. Et si vous pensez que la terre entière ne vous aime pas, vous pouvez toujours aller voir votre Père. Parce que lui, il vous aimera toujours. Toujours. Tu ne peux pas l'empêcher de t'aimer. Et tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas. Oui, ben ça, je redis deux fois, tiens. J'écris deux fois la même chose. Tu ne peux pas l'empêcher de t'aimer. Et c'est vrai qu'autour de nous, ben, quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'un. Même si l'autre te dit que celui-là, il est nul. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Voilà. Hein. Par contre, ce que tu peux faire, et des fois, ce n'est pas très juste, c'est que tu peux ne pas vouloir recevoir son amour. C'est ce que je viens de vous dire. C'est nous qui choisissons d'accueillir l'amour de Dieu ou de le refuser. Mais lui, il cessera. Il ne cessera pas de nous aimer. D'accord? Vous comprenez? Mais tu ne peux pas arrêter son amour. Tu ne peux pas. C'est fou quand on dit bah, pff, Dieu il m'aime pas. Encore une fois, c'est quoi ça? Ça s'appelle comment? Un mensonge. Il y en a un qui veut vous faire croire que Dieu, il t'a oublié. Il t'aime plus. C'est fini. Non, tu ne peux pas arrêter Dieu de t'aimer. Que tu sentes son amour ou que tu ne le sentes pas, il t'aime. C'est une vérité qui doit être ancrée en nous. Et quand le diable vient vous dire que, voilà, l'amour de Dieu, c'est bon, voilà, pipeau, c'est des mensonges. Alors, il faut retourner la flèche, hein, parce que Dieu n'arrêtera jamais de nous aimer, parce qu'il est amour. Jamais il arrêtera de nous aimer. Et il aime même, regardez les brigands qui étaient à la croix en même temps, hein, il les aimait tous les deux. Il y en a un qui a reçu. Il a dit, oui, viens, Jésus. Et aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et l'autre, il n'a pas reçu. Mais les deux, Dieu, au travers de Jésus, les aimait de la même manière. La preuve, Jésus était sur la croix. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Allez, demain matin, tu te réveilles. Je ne veux surtout pas empêcher Dieu de m'aimer. Surtout pas! Parce que quand on se remplit de l'amour de Dieu, il y a l'amour qui est distribué aussi. Quoi. Tu ne peux pas t'empêcher d'aimer tes enfants. Déjà, nous, on y arrive. Même s'ils font les pires bêtises. Même si ça te fait souffrir. Et l'amour peut faire souffrir. D'abord, Jésus, il a souffert. L'amour peut faire souffrir. Parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Comme l'amour des parents. La porte est toujours ouverte et Jésus, vous savez, il est la porte et elle est toujours ouverte. C'est toi qui tiens la poignée, elle est de ton côté, hein, elle n'est pas du sien. Il t'aime. Il faut ouvrir son cœur, quoi. Alors, donc il te donne cet amour, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, que tu le reconnaisses ou pas. Donc son amour frappe à ta porte, la poignée est de ton côté. car il te laisse le choix d'ouvrir ou de fermer ton cœur. L'amour laisse libre l'autre personne. Mais même si l'autre ne t'aime pas, toi, c'est ça des fois ce qui est compliqué, c'est qu'on aime les gens tels qu'ils sont. Mais eux, en retour, ils ne nous aiment pas forcément. Enfin, parce que des fois, malheureusement, l'amour, ils n'en veulent pas. C'est l'amour de Dieu qu'ils ne veulent pas. On ne s'en rend pas compte, nous. Parce que nous, on aime Dieu. Et on a l'amour de Dieu en nous. Et des fois, les gens, on sent qu'ils sont avec nous. On se dit, mais ils essaient de nous. Mais en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Cet amour, ils ne le comprennent pas. Pourquoi elle m'aime celle-là, hein? Qu'elle me laisse tranquille. Mais en fait, c'est parce que, quelque part, on ne s'en rend même pas compte, parce qu'on vit avec, mais c'est l'amour de Dieu qu'ils ressentent. Et soit ils vont l'accueillir à bras ouverts, soit ils vont le rejeter. C'est toujours la liberté, quoi. Ok? Allez, on avance, hein, parce que... Alors, ce n'est pas... Un autre aspect, ce n'est pas lui qui change ses intentions à notre endroit, c'est nous qui les changeons à cause de nos choix, en fait. Ah, il y a un train qui doit partir, chouchou. Bon, à bientôt. C'est enregistré, alors vous aurez la suite plus tard. Donc, ce n'est pas Dieu, c'est important, ce n'est pas Dieu qui change ses intentions à notre endroit, c'est nous qui les changeons à cause de nos choix. En fait, voilà, des fois on fait des mauvais choix, hein, mais des fois, parce que Dieu demeure dans le projet qu'il a formé pour nous. Dieu, il est fidèle, on le dit, il est fidèle, il renonce pas, il est fidèle et juste, lent à la colère, riche en bonté, quoi. Donc il renonce pas, hein, il demeure dans le projet qu'il a formé pour toi. Alors c'est vrai que des fois... Comme Dieu, des fois, a du mal à nous comprendre, nous aussi, on a du mal à le comprendre. Parce que, voilà, des fois, c'est pas... Des fois, il garde des choses cachées. Hein. Mais, il y a quand même un verset qui dit quelque chose. Dans Jérémie 33, 3, il dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes, que tu ne connais pas. » Mais il veut nous révéler des choses qui sont secrètes, qu'on ne connaît pas. Donc vous pouvez prier avec ça, en disant, « Seigneur, eh ben, tu as dit, hein, que voilà, il ne va pas forcément des fois nous dire des choses spontanément, des fois il faut persévérer, mais que Dieu veut nous révéler des choses, parce qu'on en a besoin, parce que ça va nous faire avancer, et parce qu'on est en droit de savoir. Hein. » Bon, et ça dit... des choses secrètes que tu ne connais pas. Donc, c'est des choses que tu ne connais pas, mais que Dieu va te révéler. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu qui joue à cache-cache comme nous. Dieu, c'est un Dieu qui est lumière. Donc, il ne joue pas à cache-cache, il ne se cache pas. C'est des fois nous qui nous cachons. Hein. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait avorter le projet et les desseins sur nos vies. Alors, c'est vrai que c'est important de développer l'amour qu'on a pour Dieu, parce que c'est vrai que c'est difficile de se confier dans une personne en qui on n'a pas confiance. Et l'ennemi, des fois, il nous susurre, bah, tu vois, Dieu, là, il t'a abandonné, il n'a pas répondu, ta-ta-ta-ta, parce qu'il veut te dérouter, c'est le cas de dire, hein. C'est comme quand on déroute les avions. Il passe sa vie, le diable passe sa vie à nous dérouter. Hein? Alors, ne soyons pas, hein, le diable, c'est ce qu'il fait, c'est que lui, il n'a pas de bonnes intentions. Faut que Dieu a toujours de bonnes intentions à notre endroit, même quand il nous reprend. Et vous, quand vous reprenez vos enfants, c'est que vous avez de bonnes intentions. Vous voulez lui assurer quoi? Un avenir. C'est ça. Quand on reprend nos enfants, c'est qu'on veut... On veut que, voilà, on veut pas tout leur donner sur un plateau parce qu'on veut qu'ils puissent comprendre que bah, des fois ça sera non, des fois ça sera oui, et que bah, il est trop petit, ou voilà, bref. Et c'est juste parce que ça forme l'enfant, quelque part. Il sait que bah, il peut pas avoir forcément illico presto, et il n'a pas droit à faire n'importe quoi non plus. C'est une bénédiction, la Bible le dit, que quand Dieu nous reprend, c'est une bénédiction. C'est parce qu'il nous aime suffisamment pour qu'il nous... Piou ! Regardez là, le berger qui prend, qui ramène sa brebis là, parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Ben voyons, tu vas te trouver nez à nez avec, comment ça s'appelle ? Un loup. Ouh. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait un peu. Il ne faut pas être comme Adam et Ève qui ont accepté les mensonges de l'ennemi. Et vous croyez qu'il a changé l'ennemi ? Non, il continue. Il continue. Il continue à bombarder le peuple de Dieu de mensonges. Il continue à nous bombarder. Alors nous, allons vers notre Père Céleste qui a des intentions bienveillantes. Et l'ennemi a des intentions malveillantes, très malveillantes. Alors, ne soyons pas comme Adam et Ève, c'est sûr. Il a mis le doute dans le cœur d'Adam et Ève et ils ont cru son mensonge. Ils ont cru ce qu'il a dit plutôt que le projet bienveillant de Dieu. Pourtant, ils étaient bien avec Dieu. Et le diable, il a changé les choses. Il leur a fait croire que Dieu leur cachait des choses, etc. Que lui, ben, il disait, mais liberté, voilà. Tu peux tout faire, c'est ce qu'on nous dit. Tu peux tout faire aujourd'hui, tu peux tout faire. Ben, ta vie, elle est faite pour être épanouie. Oui, je suis d'accord, ta vie est faite pour s'épanouir, mais pas n'importe comment. Tu ne peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Et là, ben, ils ont fait le mauvais choix, quoi. Hein. Ils ont fait croire que Dieu, c'est très intéressant, que Dieu cachait les choses. Mais non, il vous a dit ça, mais non, c'est faux. Moi, je suis là pour ouvrir toutes les portes. Vous cliquez, hein, c'est ça le monde aujourd'hui. Tu cliques, ça s'ouvre. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, Satan. Tu cliques, ça s'ouvre. Mais non, mais c'est vrai, tu as le droit de enfin, c'est un domaine, voilà. Il veut garder le contrôle sur nous, hein, dans le sens où il dit, ben moi je vais vous révéler les choses, je vais vous dire des choses. Hein, c'est ça. Et il est malin, il s'appelle d'ailleurs le malin, hein, d'accord. Donc, la question c'est, avec qui marchons-nous, pour qui marchons-nous? Qui est notre compagnon de route, hein? Quel est le joug qui est sur nous? Alors, il est dit aussi, Jésus a aussi parlé de mettre un joug. Il dit, prenez mon joug. Hein? Alors, donc ça, vous trouvez, 11, Matthieu 11, 28, 30. Et ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, quoi? Le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il porte tout avec nous. Hein? Donc, ce n'est pas un joug qui va nous détruire, ce n'est pas un joug qui va nous peser, c'est vraiment un joug qui va nous mettre en sécurité et un joug aussi qui quelque part, va donner du repos. Et l'ennemi ne donne pas de repos. Si vous remarquez, quand on est agité, on n'a pas de repos. Mais Dieu, il parle souvent du repos. Le repos, c'est quand on est bien. Vous savez, souvent, les gens se disent, je vais me faire du bien. Mais ils soupirent après la présence de Dieu, en fait. Je veux me faire du bien. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend tout le temps? Là, je fais pause parce que je veux, j'ai besoin. Les gens disent, j'ai besoin de me faire du bien. Ils ne savent pas comment. Alors, il y en a qui vont faire... des voyages, et moi j'ai rien contre, hein. Des voyages, comment on appelle ça là, un coup de chaud, un coup de froid, voilà, c'est ça. Et donc, enfin, les gens sont à la recherche du bien-être, mais pas d'une bonne façon, quoi. Parce que, vous savez pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de trouver du repos que maintenant. Parce que tout est agité partout. Et on a besoin de trouver du repos. Donc, Donc vous avez la solution pour trouver du repos. Donc n'hésitez pas. Dire aux gens, mais t'es fatigué. Tu cherches à te faire du bien. Tu cherches tout ce qui va pouvoir te faire du bien. Eh bien, je peux te parler de quelqu'un qui me fait du bien. Et 24 heures sur 24, ça ne coûte pas cher parce qu'il a déjà payé. Il a déjà payé. OK ? Bon, ce n'est pas marchandé. Hein. Vous comprenez dans quel sens faut le dire. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Donc Dieu a de bonnes intentions. Il veut établir le ciel sur la terre. Il s'est projeté sur toi afin que tu règnes avec lui. Et ce n'est pas quelqu'un qui garde pour lui, il partage. Afin, il a toujours dit qu'on était appelé à régner avec lui. Eh oui. Sa vie, il veut la répandre sur cette terre. C'est pas, il ne retient pas, c'est nous des fois qui retenons en fait. Sa vie se répand sur cette terre, là où nous sommes, ouvre ton cœur et laisse-le te remplir de sa vie, de sa lumière, de son amour. Et quand il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Alors vous lirez, hein, je ne vais pas vous lire parce que c'est le chapitre d'Hébreux, c'est Hébreux 12, de 4 à 10. Ce qu'on considère comme une épreuve, c'est souvent comme quand nous on met les enfants au coin, hein. ou qu'on les punit de quelque chose, c'est par amour qu'il nous dit « je t'arrête là » parce que l'étape suivante, ça sera dangereux pour toi. Voilà. Donc, il y a le psaume 84 qui dit « quand on marche avec lui, on trouve dans notre cœur des chemins tout tracés. Même quand on traverse la vallée des larmes, on en fait un oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » D'étape en étape, notre vigueur s'accroît. Ce qui plaît à Dieu, c'est la confiance en ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il a prévu pour nous. Voilà. Quand on dit que ta volonté soit faite, on appelle aussi notre destinée à se réaliser, quoi. Hein? Dieu récompense ceux qui placent leur confiance en lui. C'est marqué, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bon, alors, ce n'est pas forcément la foi qui dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Mais c'est aussi cet aspect de la foi qui est la confiance en Dieu. « J'ai foi en toi. » Ça veut dire que je te donne les clés de ma vie. Voilà. Parce que j'ai foi en toi. Et il est dit « Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. » Quand nous vivons en lui faisant confiance, nous appelons et permettons à Dieu d'établir ses plans pour nous, ses projets pour nous. Nous lui permettons d'accomplir en nous les plans qu'il avait prévus pour notre vie. Quand on dit « j'ai la foi », on dit ça comment ? On dit « est-ce que c'est, j'ai confiance en Dieu ?» C'est ça, j'ai confiance en Dieu, vraiment. Je sais que c'est mon Dieu. Ou alors « au nom de Jésus, lève-toi et marche » ou « c'est quoi ?» Enfin, parce que ça a deux consonances un peu différentes, quoi. C'est « j'attends le miracle » ou « j'ai vraiment foi en toi ». Je veux vraiment, je crois que tu as des bonnes intentions, que tu es bienveillant et je veux pouvoir accomplir. Et j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Ça, c'est important. La confiance est une foi en Dieu parce que ça va lui permettre d'accomplir notre destinée. Vous imaginez ? Ce n'est pas forcément le don de foi que Dieu a donné. Il y a des gens qui peuvent dire « au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, hein, si vous avez la foi pour ça. Et si... Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les malades, je ne dis pas ça du tout. Hein. Mais il y a cette foi en lui dans le sens de confiance. J'irai les yeux fermés, je te suivrai les yeux fermés. C'est cette confiance-là que Dieu nous demande, parce qu'on peut se reposer en lui. Voilà. Et on lui permet d'accomplir en nous et par nous les plans qu'il avait prévus. Et vous savez, quand on marche avec lui, c'est comme les disciples d'Emmaüs, ça brûle. Parce qu'il disait, oh, quand il parlait, ça brûlait là, ça brûlait. Hein. Notre horizon s'ouvre et on avance, et l'amour de Dieu se répand là où on est. Alors, quelque part, moi, je veux nous encourager, j'ai presque fini, avoir la foi en lui, la foi dans son amour, la foi dans ses intentions, dans ses projets de vie pour nous. Pour nous, pour ceux qui nous entourent, mais pour nous. Et il nous donne le repos. Vous savez que les Hébreux, enfin c'est répété dans les Hébreux, Hébreux 3, de 7 à 11, que les Hébreux n'ont pas cru que Dieu les conduisait à bon port. Et pourtant, ils ont vécu dans le désert 40 ans. Et Dieu était à leurs petits soins. Il était avec eux. Il marchait devant eux, devant la lumière, et quand il faisait nuit, derrière eux. Il les conduisait à bon port. Et en fait, il était, à cause de ça, il y avait une rébellion constante. Alors, il y avait des fois, il faisait là ce qu'il fallait, surtout pas des choses. Donne-nous à manger, donne-nous, il n'y a pas d'eau. Le poireau d'Égypte. Je sens encore son odeur. Et oui, pendant 40 ans, ils ont 40 ans, Dieu était. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Ils pourvoyaient. Ils avaient faim et soif. Bon, ils étaient en. C'est intéressant, c'est qu'ils étaient en rébellion constante. C'était pas une fois. Des fois, nous, on se rebelle contre Dieu, mais bon, on demande pardon. Et puis, bon, voilà, rebeller, on n'est pas d'accord, on comprend. Mais là, c'était constant, quoi. Le pauvre Moïse, il a fini par s'arracher les cheveux. Je ne sais pas s'il avait une barbe, mais... Et c'est vrai, c'était une attitude de cœur. Et pourtant, ils avaient Dieu avec eux. C'est vrai, 400 ans, ils étaient en Égypte. Donc, ils ont reçu la culture égyptienne. Mais... Depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte, Dieu a été avec eux pendant 40 ans, en proximité, quoi. En proximité. Et pourtant, enfin, moi, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais c'était... Et c'est pour ça qu'il est dit, Dieu, enfin, que dans les Hébreux, c'est rapporté, quoi. Les Hébreux n'ont pas cru que Dieu les conduisait à bon port. Ils étaient en rébellion constante. Et à cause de cela, ils ne sont pas rentrés dans leur repos. Ils étaient en contestation constante. Pourtant, ils avaient Dieu à proximité, quoi. Ils voyaient la manne, ils voyaient des choses, le bâton avec le serpent pour les maladies. Enfin, ils ont vu la mer se dresser. Ils ont vu... Allez, on va finir. Alors, l'ennemi ne connaît pas le repos. Donc, moi, je vous propose d'aller en direction de Dieu. Parce que lui, il est le Dieu de la paix. Alors, consultez le Dieu de la paix. Et que celui qui veut vous emmener sur des sentiers qui ne sont pas les bons, mais vous lui dites, tais-toi. L'ennemi, il est en contestation permanente. Contestation permanente. Il est en guerre permanente. Il n'a pas un gramme de repos, même un dixième de gramme de repos. Il est toujours dans l'agitation. Et c'est ce qu'il veut provoquer. Il veut provoquer la dépression. Il veut provoquer. C'est pour ça que les Français ont besoin de la paix de Dieu. Ils ont besoin de nous, parce que nous, on aime Dieu. Et ils ont besoin de connaître le repos qu'on peut leur apporter. OK ? Alors, quel joug on veut avoir sur nous, hein ? Jésus qui donne sa paix, c'est bien sa paix, c'est pas la paix que donne le monde, c'est sa paix. Vous pouvez dire aux gens, tu connais pas ma paix, elle est bien meilleure que la tienne. Oh là, je peux t'assurer que quand tu connaîtras cette paix-là, tu seras bien. Tes comprimés que tu prends là, depuis des années, tu pourras les jeter. Et il est la paix, il est la paix avec un grand L et un grand P. Et l'ennemi ne fait que peser sur nous son incertitude, son mensonge, sa peur, etc., etc. Donc, avec qui partages-tu ta vie? Quel est ton guide? Dieu, l'ennemi, les circonstances? À vous de choisir de qui on veut se rapprocher. Et moi, j'ai envie, alors je finis là-dessus, j'ai envie de vous dire, soyez comme un Joseph. Parce que Joseph, il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu, et ben, vous pourrez lire, hein, Genèse 30, à partir de 39, hein, donc voilà. Joseph qui, malgré les circonstances défavorables, et il en a connu depuis son jeune âge, on l'a mis, ses frères l'ont rendu esclave, on fait croire au père que voilà, il était mort, c'est honteux de faire croire à un père, enfin, c'est démesuré, voilà. Et en fait, même dans les circonstances complètement défavorables, il a toujours placé sa confiance en Dieu. Et il avait foi en Dieu. Et Dieu, non seulement bénissait Joseph, que ce soit dans la prison, que ce soit là où il était, il bénissait non seulement Joseph, parce qu'il avait foi en Dieu, mais il bénissait au-delà. Il bénissait tous les gens qui l'entouraient. Vous imaginez, il était source de bénédiction, quoi, parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Et des malheurs, il en a eu. Hein. Même les gens reconnaissaient Potiphar, ils reconnaissaient que Joseph était bien. Depuis qu'il était là, sa maison rayonnait. Tout, ça prospérait. Les gens, il faut qu'ils prospèrent. Enfin, à notre contact, ils doivent prospérer, pas dans le mal, mais voir qu'ils doivent... Enfin, Dieu peut se servir de ça aussi, prospérer. Mais avec notre contact, ils doivent voir aussi que c'est Dieu qui nous accompagne. Parce que, ben voilà, il y a des choses qui se passent dans leur vie. Et là, c'est ce qui se passait. Même à la prison, en fait, il était délégué, c'est lui qui s'occupait des autres prisonniers, quoi. Enfin, c'est impressionnant, hein. Donc, soyons des Joseph, hein, vraiment, des Joseph. Et vous savez ce qu'il dit à la fin, Joseph, donc, Genèse 45, de 4 à 8, et ça, je vais le lire, c'est quand Joseph se dévoile à ses frères. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, alors il est incroyable, quoi. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords. Ne vous accablez pas de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Ah ben là, on peut dire, hein, chapeau. Chapeau. Et il finit, bon, j'ai pas tout pris parce que ça aurait fait une tartine. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc là, il y a tout. Et, enfin, vraiment, il a pardonné à ses frères, quoi. Il aime ses frères alors qu'ils l'ont. Enfin, bref, etc. Et même, il leur dit, mais non, arrêtez de vous tourmenter. Parce que maintenant, ses frères se tourmentaient. Ben, c'est pas nouveau, hein. Le tourment, il devait être là depuis des années. Ils ont menti à leur père et tout ça. Ils étaient prisonniers. Il les libère. Quand on dit que Dieu nous libère, il est venu libérer les prisonniers. Ce n'est pas forcément ceux qui sont en détention. Tous les Français sont en détention. Et ils ne le savent pas. Ils ont mis le président, l'ancien président, pour qu'ils comprennent. La détention, ce n'est pas une bonne chose. Mais, parce que, n'empêche que Nicolas Sarkozy il parle de Jésus. Hein. Je ne sais pas où il en est, mais... Bon, voilà. Donc, ça peut parler. Servez-vous de ça si vous parlez à des gens. Mais, voilà. Jésus, je vous dis, il a parlé de libérer les prisonniers. Pourquoi ? Mais on peut être prisonnier de plein de choses, quoi.